Un moment pour la Terre, cette émission mensuelle donc avec France Nature Environnement. Aujourd'hui, c'est Amélie Bruchère, salariée de France Nature Environnement 04, et Yann Lohou, stagiaire au sein de la communauté de communes du Sisternay-Buech, qui viennent nous parler de déchets et de gaspillage alimentaire. Bonjour.
Bonjour et bonjour à tous. Alors effectivement, je fais partie de l'association France Nature Environnement des Alpes de Haute-Provence, qui est une fédération départementale d'associations de protection de l'environnement et de la nature sur tout le département, et qui travaille sur des thématiques variées comme l'énergie, les déchets, la santé, l'environnement, les risques, la biodiversité. Mais aujourd'hui, on va parler plus précisément des déchets et surtout du gaspillage alimentaire. Mais avant tout, je suis venue accompagnée de Yann.
Bonjour à tous. Alors moi, je suis stagiaire au sein de la communauté de communes du Sisternay-Buech. Donc mon parcours après le bac, j'avais entrepris un IUT dans le domaine de la mécanique, de la conception mécanique, sauf que c'était beaucoup trop industriel à mon goût. J'ai voulu m'orienter ensuite vers l'artisanat dans le domaine de la métallerie. Mais au final, je me suis tourné vers quelque chose qui me plaisait et me tenait à cœur, qui est le domaine de la nature. Et j'ai entrepris un BTS gestion protection de la nature. Et là, je suis actuellement stagiaire au sein de la communauté de communes du Sisternay-Buech, parce que je trouve que les missions concernant le tri sélectif et la gestion des déchets ont un sens particulier en ces temps-ci, et que c'est important et primordial de se pencher sur la question maintenant.
Voilà, donc si on est venu ensemble, c'est parce que FNE04 a un partenariat avec la communauté de communes du Sisternay-Buech, qui a souhaité s'engager dans la lutte contre le gaspillage alimentaire sur son territoire et à tous les niveaux de la chaîne alimentaire, que ce soit auprès des écoles, des collèges, des lycées, des cuisines centrales, des EHPAD, des hôpitaux, des grandes et moyennes surfaces, donc tous ces acteurs qui produisent des déchets alimentaires. Et donc c'est un projet global qu'on a lancé en partenariat ensemble il y a maintenant 3 ans, donc il avait commencé en 2019, et pour lequel FNE04 a été choisi en tant que prestataire. Et on a donc souhaité s'attaquer aux sources de la production des déchets organiques en réduisant directement et quantitativement les pertes et le gaspillage alimentaire tout au long de la chaîne alimentaire. Donc que ce soit le gaspillage à la production, à la transformation, à la distribution, à la consommation. Mais donc pour vraiment comprendre cette démarche et pourquoi c'est hyper important de réduire le gaspillage alimentaire, il faut qu'on fasse d'abord ensemble un petit focus sur les déchets. Et Yann va nous parler un petit peu de la quantité de déchets qu'on produit chaque année, parce que c'est astronomique.
Alors, quelle quantité de déchets on produit en France ? Eh bien, par habitant et par an, chaque individu produit 354 kg d'ordures ménagères. Donc ça, c'est un calcul qui a été effectué par l'ADEME, qui est l'Agence française de la transition écologique, et qui a été fait à partir des tonnages des poubelles des ménages collectés par les collectivités locales. Sauf que le problème, c'est que ces chiffres sont que la partie immergée de l'iceberg, car si on prend en compte tous les domaines comme le BTP, l'industrie, l'agriculture ou encore l'activité de soins, on atteint cette fois-ci 13,8 tonnes de déchets produits par an et par habitant.
Et donc, comme tu es stagiaire à la communauté de communes du Sisternay-Buech, faisons un petit focus sur la quantité de déchets qui est produite sur cette communauté de communes.
Donc sur cette com-com, la quantité d'ordures ménagères produites a un coût annuel de 5 millions d'euros. C'est aussi 19 000 tonnes de déchets qui sont ramassés chaque année, donc dans ces 19 000 tonnes, on a 7 000 tonnes d'ordures ménagères et on a 1 700 tonnes d'encombrants issus des déchetteries. Donc tout ça, ça représente 750 kg par habitant et par an, soit un coût total de 197 € par habitant. Donc ce qui coûte aussi le plus cher au service de collecte des déchets, c'est l'enfouissement et le traitement des ordures ménagères et des encombrants.
Voilà, effectivement, il faut qu'on se penche ensemble sur ce que deviennent les déchets une fois qu'ils sont ramassés. Odile, est-ce que vous connaissez le trajet des déchets une fois qu'ils sont récupérés par les communautés de communes, à votre avis, qu'est-ce qu'ils deviennent ?
Eh bien, je sais que certains sont recyclés, je l'espère en tout cas, et puis d'autres, je ne sais pas, sont enfouis.
C'est vrai, en fait, on a un petit peu du mal à concevoir ce qui se passe après avoir mis nos ordures dans le sac noir, parce que finalement, on le voit assez peu. Et si on se penche pas sur la question, on n'a pas vraiment de visibilité sur que deviennent nos déchets. Donc, si les déchets, on les a triés dans les bornes de tri, effectivement, ils vont être recyclés. Mais si ils ne le sont pas, si on les met dans la poubelle noire, en fait, le sac noir qu'on appelle ordure ménagère, il va y avoir plusieurs possibilités. Donc, Yann va nous parler de différentes possibilités de traitement des déchets.
Donc, la destination de nos déchets en France est répartie comme telle. On a 30% qui est incinéré, 36% qui finissent dans les décharges, donc enfouis. On a 20% qui sont valorisés, c'est-à-dire recyclés. Et pour finir, on a 14% qui finissent en gestion biologique. Donc c'est tout ce qui est compostage et méthanisation des déchets organiques pour produire de l'énergie.
Voilà, donc effectivement, l'incinération, c'est une des possibilités qui existent. Donc c'est-à-dire qu'on va faire un très grand feu dans une structure adaptée. Et ce feu, il va tourner 24 heures sur 24 et on va y apporter tous les déchets de manière à les détruire et ensuite à traiter les fumées qui vont être émises. Par contre, on est sur un territoire qui est assez rural et l'incinération, pour faire tourner ce feu 24 heures sur 24, va nécessiter une quantité assez importante de déchets, donc un apport régulier et important. C'est pour ça que c'est assez peu adapté à notre territoire où on habite et qu'aujourd'hui, la plupart des déchets d'ordures ménagères sont enfouis. Donc c'est ce que Yann a appelé les décharges. Ça représente sur toute la France 36% des déchets qui vont être mis en décharge. Et comment ça se passe? C'est tout simplement, on va creuser un grand trou. On va y mettre une bâche pour protéger que les déchets n'entrent pas directement en contact avec la terre. Et ensuite, on va y apporter tous nos déchets. On ouvre le camion ben et tous les déchets y arrivent. Et puis, de manière à ce que les déchets ne soient pas envolés, ne se promènent pas dans la nature, il y a un gros camion qui va venir écraser les déchets pour les compacter. Et une fois que ce casier, donc ce grand trou qu'on appelle casier, est rempli, et ben on referme. Et on continue comme ça indéfiniment. C'est pour ça que la problématique des déchets, c'est vraiment très important, parce que si on continue au rythme actuel, on va se retrouver avec des décharges à foison et on va être envahi de déchets. Ça commence déjà à être le cas. Donc, il y a d'autres solutions dont a parlé aussi Yann. C'est la gestion biologique. Il y a le compostage pour les déchets alimentaires, donc tout ce qui est biodéchets. Et il y a la méthanisation. C'est tout simplement utiliser le méthane qui va être dégagé des déchets organiques quand ils se décomposent pour en faire de l'énergie. Mais encore une fois, c'est des solutions un petit peu particulières et qui nécessitent qu'il y ait une collecte des biodéchets qui soit organisée. Donc pour en revenir un petit peu à plus précisément le territoire dont on parlait, ce serait intéressant qu'on se penche sur la composition des ordures ménagères à la CCSB. CCSB, communauté de communes du Sisteron-et-Buëch. Normalement, quand on met nos déchets à la poubelle, personne ne va venir ouvrir pour voir s'il y a quelque chose qui est recyclable dedans et puis le mettre dans le circuit de tri. Mais de temps en temps, en général environ tous les 5 ans, une communauté de communes réalise une étude de caractérisation des déchets, c'est-à-dire qu'un groupe de personnes identifiées vont ouvrir les poubelles et voir qu'est-ce qu'il y a dedans et déterminer les différentes catégories de ce qu'on retrouve dans les poubelles. Donc la dernière qui a été faite à la CCSB, c'était en 2016. Donc je vais laisser Yann présenter la composition d'une poubelle type qu'on retrouvait en 2016 à la CCSB.
Donc lors d'une étude de caractérisation des déchets menée en 2016, on a pu voir que dans les poubelles, on trouvait 35% de déchets résiduels, donc c'est ce qui finit dans le sac noir, 33% de déchets compostables, 17% de déchets recyclables, habituels, ceux qu'on connaît tous, qui finissent dans la poubelle jaune, et 9% d'extension consigne de tri. Alors ça, c'est les nouveaux déchets qu'on peut maintenant recycler au sein de la communauté de communes. Donc par exemple, on a les emballages, les papiers d'aluminium, les pots de yaourt et plein d'autres choses. Dans les poubelles, on a aussi 5% de déchets évitables, donc toutes les publicités qu'on reçoit dans nos boîtes aux lettres, par exemple, les journaux, et 1% de textiles qui sont réutilisables. Donc on peut dire que réduire les déchets à la source, c'est quand même une priorité.
Surtout quand on voit que dans la composition qu'a détaillée Yann, en fait, il y a 35% de déchets qui sont résiduels. Ça veut dire qu'il y a seulement 35% de la poubelle qui devrait se retrouver, des déchets qui devraient effectivement se trouver dans la poubelle. Tout le reste, ce sont des déchets compostables qu'on aurait pu faire retourner à la terre par le compostage, des déchets recyclables qui n'ont pas été recyclés, l'extension de la consigne de tri qui nous permet maintenant de mettre tous les emballages dans le tri, absolument tous, hein, qu'ils soient plastique mou, plastique dur, vraiment tous les emballages se trient. Et les déchets évitables qu'on aurait pu, on aurait par exemple pu mettre un stop pub, on aurait pu mettre les textiles dans des bornes de réutilisation textile. Donc quand on voit qu'il y a seulement 35% des déchets qui devraient se retrouver dans la poubelle, on se dit qu'il y a vraiment une problématique de réduire les déchets à la source. Et effectivement de faire vraiment le tri des déchets. Bon alors, après cette intervention assez déprimante sur l'état actuel de nos poubelles et la quantité de déchets qu'on produit, on vous propose une pause musicale. On a choisi le titre « Effet secondaire de Grand Corps Malade ».
En ces temps confinés, on s'est posé un peu. Loin des courses effrénées, on a ouvert les yeux. Sur cette époque troublée, ça fait du bien parfois. Se remettre à penser, même si c'est pas par choix. Alors entre les cris d'enfants et le travail scolaire, entre les masques et les gants, entre peur et colère, voyant les dirigeants flipper dans leur confuse gestion, en ces temps confinés, on se pose des questions. Et si ce virus avait beaucoup d'autres vertus que celle de s'attaquer à nos poumons vulnérables, s'il essayait aussi de nous rendre la vue sur nos modes de vie devenus préjudiciables, si on doit sauver nos vies en restant bien chez soi, on laisse enfin la terre récupérer ce qu'on lui a pris. La nature fait sa loi en reprenant ses droits, se vengeant de notre arrogance et de notre mépris. Et est-ce un hasard si ce virus immonde n'attaque pas les plus jeunes, n'atteint pas les enfants? Il s'en prend aux adultes responsables de ce monde, il condamne nos dérives et épargne les innocents. Ce monde des adultes est devenu si fébrile, l'ordre établi a explosé en éclats. Les terriens se rappellent qu'ils sont humains et fragiles, et se sentent peut-être l'heure de remettre tout à plat. Et si ce virus avait beaucoup d'autres pouvoirs que celui de s'attaquer à notre respiration, s'il essayait aussi de nous rendre la mémoire sur les valeurs oubliées derrière nos ambitions, on se découvre soudain semblables, solidaires, tous dans le même bateau pour affronter le virus. C'était un peu moins le cas pour combattre la misère, on était moins unis pour accueillir l'Aquarius. Et si ce virus avait le don énorme de rappeler ce qui nous est vraiment essentiel, les voyages, les sorties, l'argent ne sont plus la norme, et de nos fenêtres on réapprend à regarder le ciel. On a du temps pour la famille, on ralentit le travail, et même avec l'extérieur on renforce les liens. On réinvente nos rituels, plein d'idées, de trouvailles, et chaque jour on prend des nouvelles de nos anciens. Et si ce virus nous montrait qui sont les vrais héros, ceux qui trimaient déjà dans nos pensées lointaines, ce n'est que maintenant qu'ils font la une des journaux, pendant que le CAC 40 est en quarantaine. Bien avant le corona, l'hôpital suffoquait, il toussait la misère et la saturation. Nos dirigeants découvrent qu'il y a lieu d'être inquiets, maintenant qu'il y a la queue en réanimation. On reconnaît tout à coup ceux qui nous aident à vivre, quand l'État asphyxie tous nos services publics. Ceux qui nettoient les rues, qui transportent et qui livrent, on redécouvre les transparents de la République. Alors quand ce virus partira comme il est venu, que restera-t-il de tous ces effets secondaires? Qu'est-ce qu'on aura gagné avec tout ce qu'on a perdu? Est-ce que nos morts auront eu un destin salutaire?
Grand corps malade, effet secondaire dans cette émission Un moment pour la Terre avec France Nature Environnement.
Donc voilà, on vous a fait écouter cette musique qui est bien particulière et propre à cette période de confinement. On peut remarquer qu'en fait on a été contraint de s'arrêter, contraint de changer toutes nos habitudes. Et c'est intéressant de noter comment ce moment a été une opportunité pour prendre du recul sur tout ce qu'on fait. On peut faire une parallèle avec cette musique sur le fait que tous les déchets de notre quotidien sont devenus quelque chose de normal, quelque chose dont on n'a pas vraiment conscience. Et ce serait quand même intéressant de reprendre conscience justement de l'ampleur de tout ce que ça représente et ce qui va venir.
Voilà, et du coup de l'urgence à agir. Et c'est pour ça que la communauté de communes a décidé de s'attaquer aux causes directes du gaspillage alimentaire. Sous le format du partenariat que j'ai décrit avant, qui s'appelle le partenariat pour le projet Gaspi, c'est fini. Et donc dans ce projet, depuis 2019, les objectifs, c'était de réduire quantitativement le gaspillage alimentaire chez les différents producteurs répartis tout au long de la chaîne alimentaire, de les accompagner au changement de comportement et de les sensibiliser sur le gaspillage alimentaire, et aussi de démontrer par les actions pilotes que le gaspillage alimentaire, on peut mettre en place des actions qui vont le réduire et que ça fonctionne. Et également lancer la dynamique sur le territoire pour faire rencontrer les acteurs, pour mettre en place les actions qui vont permettre de réduire le gaspillage alimentaire. Et enfin, toujours favoriser le réemploi et le don quand on ne peut pas éviter le gaspillage alimentaire parce qu'il y a des contraintes particulières. Alors ce projet, il est vaste et il a commencé depuis 2019, donc je ne vais pas vous faire un récap entier de tout ce qu'on a fait depuis le début, parce que ça serait extrêmement long. J'ai choisi quelques actions à vous présenter qui me paraissent pertinentes et puis qui sont un petit peu d'actualité. Par exemple, on a travaillé avec les cantines scolaires et les cuisines centrales. Les cuisines centrales, c'est quand les cantines n'ont pas de cuisine sur place, parce que soit elles sont trop petites, soit elles n'ont pas les moyens. Et donc, il y a par exemple à Sisteron une cantine centrale qui s'appelle le Tivoli et qui prépare la nourriture pour la cantine qui est sur place et qui livre la nourriture pour deux autres écoles, donc des écoles primaires et maternelles. Et donc, cette cantine centrale et ces autres cantines qu'on appelle cantines satellites, donc qui sont livrées par la cantine centrale, on l'a accompagnée depuis le début. Et comment on a fait ? C'est qu'en 2019, on est allé au Tivoli et dans les autres écoles, pendant une semaine, on était à la cantine et on a pesé le gaspillage alimentaire, tout simplement. On a pesé les restes des assiettes des élèves pour voir qu'est-ce qu'ils n'avaient pas mangé, mais aussi ce qui avait été livré en trop. Parce que des fois, il y a des quantités qui sont livrées en surplus et qui ne sont pas servies aux élèves parce qu'ils n'avaient pas la faim ou qu'il y avait des élèves absents. Et donc, il reste de la nourriture. Donc ça, on a pesé sur une semaine pour avoir des données statistiquement fiables. Et ça nous a permis d'identifier les quantités et les sources du gaspillage. Parce que quand on est sur place, on peut donc observer la manière dont c'est servi. Est-ce que l'ambiance dans la cantine permet de prendre agréablement le repas? Est-ce que l'accompagnement permet d'inciter les enfants à goûter? Est-ce que les enfants ont aussi des remarques récurrentes sur les produits qui sont servis? Par exemple, s'il y a souvent des fruits exotiques, bon, on remarque que c'est pas ce qui fonctionne le mieux, par exemple. Donc ça nous a permis d'établir un état des lieux pour voir quel est le gaspillage alimentaire dans cette cantine. Et ensuite, on a fait un rapport, on a proposé un plan d'action aux équipes de cantine, à la mairie, de manière à mettre en œuvre des actions pour réduire le gaspillage alimentaire. Ça prenait la forme de l'accompagnement, par exemple, des élèves, l'adaptation des quantités qui sont livrées, parce qu'il y a des normes en production de la nourriture, mais en fait, les cantines ne sont pas obligées de respecter les normes qui sont recommandées. La quantité qui est recommandée par élève, c'est pas une obligation. Si jamais on voit que les élèves, par exemple, à une période de l'année, ils ont moins faim, les CP, ils ont moins faim que les plus grands. Donc on peut adapter ces quantités. Et aussi, il y a eu un travail de liaison entre la cuisine centrale et les cantines, parce que comme les chefs qui cuisinent en cuisine centrale, ils ne voient pas directement ce qui a été mangé par les élèves qui sont dans la cantine satellite. Il y a une communication importante à mettre en œuvre, parce que sinon, ils ne peuvent pas adapter les quantités ou les menus. Donc, ça a pris le plan d'action a pris cette forme. Il y a eu un travail important qui a été mené par les différentes équipes de cantine, d'accompagnement, par les chefs de cuisine. Et on est revenu en fin 2021 pour à nouveau peser le gaspillage alimentaire. Et on a vu que tout ce travail a porté ses fruits. Donc, comme dit, on pesait sur une semaine, mais si on extrapolait les données à l'année, ça fait que chaque année, il y a 3700 kilos de nourriture qui finissent en moins à la poubelle grâce au travail qui a été mené. Donc en fait, si on continuait comme c'était en œuvre en 2019, il y aurait 3700 kilos à la poubelle. Et là, grâce à ce travail, c'est tous ces kilos en moins qui sont arrivés à la poubelle.
Enfin, une bonne nouvelle.
Voilà, enfin, on voit que le travail porte ses fruits et que c'est possible de s'attaquer au gaspillage alimentaire, que c'est pas dans les habitudes qu'on peut rien faire, mais quand on se penche sur la question et qu'on propose des actions, eh ben, on voit que ça porte ses fruits. Et ça fait plus de 7000 repas en moins à la poubelle. Et évidemment, le gaspillage alimentaire, c'est aussi un gaspillage d'argent. Donc, grâce à la nourriture qui n'a pas été jetée, c'est 8400 euros qui ont été économisés chaque année pour ces cantines. Et le gaspillage alimentaire, c'est aussi des effets sur l'environnement. Alors là, j'ai choisi de présenter l'émission de CO2 que la nourriture gaspillée aurait produite, mais les effets sur l'environnement sont vastes. On utilise beaucoup d'eau, on utilise beaucoup d'énergie pour produire de la nourriture, surtout quand c'est de la nourriture qui est jetée, donc c'est vraiment dommage. Et là, grâce au travail qui a été mené, c'est 9,5 tonnes de CO2 qui ont été évitées chaque année dans ces cantines. 9,5 tonnes, bon, ça parle à personne, ça représente 80 allers-retours entre Marseille et Lille en voiture. Donc c'est assez conséquent. Et donc le travail qui a été mené par le personnel de cantine, on a aussi complété ça par des interventions scolaires, donc pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire. Et on est par exemple allé à l'école du Thor à Sisteron pour sensibiliser les CP, les CE1 et les CE2. Et à la suite de ça, ils ont tous réalisé des productions artistiques. C'est-à-dire qu'on leur a laissé libre cours à leur imagination et on leur a proposé de faire des dessins sur le thème du gaspillage alimentaire pour qu'ils expriment ce qu'ils ressentent. Et ces dessins, on les expose actuellement à la mairie de Sisteron. Donc vous pouvez retrouver directement à la mairie, au rez-de-chaussée, les dessins de ces enfants, ainsi que notre exposition sur le gaspillage alimentaire pour comprendre un petit peu les conséquences que ça a en termes, comme je le disais, environnementales, mais aussi éthiques, sociales. Et donc c'est disponible en mairie jusqu'à vendredi de cette semaine. Donc n'hésitez pas à venir voir pour vous renseigner sur le gaspillage et puis voir les productions de ces élèves, dont on sait qu'ils ont un rôle très important de sensibilisation. Donc c'était pour vous parler des cantines scolaires et de la restauration collective. J'ai pris l'exemple du Tivoli à Sisteron, mais on a accompagné 19 cantines scolaires. Donc les résultats sont positifs dans toutes ces cantines. Et voilà, c'est un exemple un peu plus particulier. On a aussi accompagné la restauration commerciale, c'est-à-dire les restaurants de ville à Sisteron. Et comment on s'y est pris? C'est qu'on a contacté les restaurateurs de Sisteron en leur proposant une formation gratuite d'une demi-journée. Cette formation, elle a intéressé 4 restaurateurs qui s'y sont rendus et qui ont étudié pendant une demi-journée déjà ce que deviennent nos déchets, pour qu'ils comprennent pourquoi c'est important de les réduire. Et ensuite, avec un formateur spécialisé dans le gaspillage alimentaire, ils ont pu identifier ce qui génère du gaspillage dans leur restaurant. Que ça soit de la commande, à la livraison, à la cuisine, au service, il y a à chaque étape du gaspillage alimentaire qui est possible. Et ensuite, ils ont travaillé en petits groupes en intelligence collective pour identifier des solutions qui sont adaptées à leur fonctionnement, qui sont vraiment adaptées à leur restaurant. Et chacun, suite à cette formation, a pris des engagements pour qu'ils puissent les mettre en œuvre et que ce soit adapté à leur fonctionnement. Par exemple, dans la manière de servir le pain, Si je suis un restaurateur qui peut proposer des pizzas, il vaut mieux pas servir le pain immédiatement, mais plutôt attendre le choix du client, parce que s'il prend une pizza, on va pas lui servir du pain, par exemple. Ou la manière de servir l'eau, si elle est sur la table dès le début, peut-être que les clients n'auraient pas voulu de l'eau plate, on ne sait pas. La quantité qui est servie, notamment l'accompagnement, peut-être revoir la quantité de frites ou la quantité de salade qui accompagne le plat. Et donc, ça, c'était il y a un peu plus d'un mois que cette formation a eu lieu. Et entre-temps, on a échangé avec eux et tous ont effectivement initié ensuite cette démarche de réduction du gaspillage alimentaire dans leur restaurant. Et en plus, ils ont réalisé des pesées du gaspillage. Donc, ils ont mis tout simplement une balance sous leur poubelle et ils ont mis uniquement les déchets alimentaires. Que ce soit vraiment le gaspillage ou aussi les épluchures pour la préparation de leur repas. Et ces données, elles vont aussi nous permettre de dimensionner un composteur. Donc installer un composteur partagé dans Sisteron Centre. Comme ça, les restaurateurs vont pouvoir y mettre leurs déchets organiques. Ça éviterait que ça finisse en décharge. Et donc, c'est pourquoi la semaine dernière, suite à leur engagement, nous leur avons remis un label qui permet de reconnaître les restaurateurs qui ont initié cette démarche et surtout de féliciter leur engagement, parce que ce qu'on veut, c'est montrer qu'il y a des démarches positives, il faut les soutenir et c'est comme ça qu'on va montrer l'exemple et qu'on va pouvoir réduire le gaspillage alimentaire. Et donc, grâce à toute cette formation, à cette sensibilisation, on espère qu'ils vont initier une démarche beaucoup plus large sur la communauté de communes. Il y a également les chefs de cuisine centrale, les chefs de cuisine des écoles, pour lesquels nous avions aussi organisé une formation, parce qu'on s'était rendu compte que depuis l'obligation qu'il y ait un menu végétarien à la cantine une fois par semaine, c'était un petit peu nouveau pour eux et ils n'avaient pas forcément les connaissances ou les idées pour faire ces menus. Et à destination de ces chefs, on avait aussi organisé la formation Initiation en cuisine nourricière qui permet du coup d'acquérir des connaissances sur la diversification des sources de protéines, donc les protéines végétales, tout en conservant un équilibre alimentaire, de manière à ce que les repas qui sont produits soit intéressant, ne soit pas toujours les mêmes, et puis soit varié. Et hier, avec Yann, on était aussi en classe pour sensibiliser les élèves à l'aragne, où on leur a proposé de cuisiner un gâteau avec des protéines végétales. Donc, je vais laisser Yann expliquer un petit peu comment on a procédé. La recette, on pourra peut-être le mettre sur le site internet de Fréquence Mistral, n'hésitez pas à aller la voir. Mais on peut vous expliquer rapidement comment a fonctionné cet atelier.
Alors effectivement, hier on était à l'Aragne et on a fait une animation auprès de deux classes de CM1. On est accompagné par une nutritionniste professionnelle. Donc l'atelier se divisait en deux parties. La première, c'est celle qu'on a animée Amélie et moi. Donc, qui consistait en fait à leur faire un jeu où ils devaient mener une enquête fictive. Donc il y avait plusieurs suspects, plusieurs personnages qui avaient un rapport de plus ou moins loin avec la cantine. Donc par exemple une élève qui mange à la cantine ou encore un accompagnateur ou encore le cuisinier. Et ils devaient poser des questions et essayer de comprendre en fait la part de responsabilité de chacun dans le gaspillage alimentaire. Et évidemment la réponse était que chacun avait sa part de responsabilité et que chacun pouvait agir à son échelle pour essayer de limiter le gaspillage alimentaire. Ensuite, la deuxième partie qui était animée par la nutritionniste consistait à l'élaboration d'une recette de gâteau au chocolat. Donc cette fois-ci, au lieu de mettre du beurre, de la farine et beaucoup de sucre dans le gâteau, on a fait une recette à base de haricots rouges et on a mis, pour le côté gourmand, quelques noix.
Voilà, du coup, cette recette, ça a été une mise en pratique pour que les élèves se rendent compte que la végétalisation de l'alimentation, c'est possible et ça fait envie. Et donc, en faisant ce gâteau, au début, ils avaient très très peur de mettre des haricots rouges, dans la recette. Et finalement, le gâteau est sorti du four et tous avaient très très envie de le goûter. Donc, c'est par des actions concrètes comme ça qu'on arrive à convaincre les élèves. Bon, alors on va faire de nouveau une petite pause musicale et on va écouter Orelsan.
Hungry, 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 hungry. Nouveau survêt, je suis sur mon 31. C'est pas le 31. Juste un samedi soir, t'inquiète pas, c'est rien. Mentalité zéro lendemain. Tout ira bien tant que mon verre est plein. Dites aux voisins qu'on va jamais baisser le son. Marcherons en l'air vers le ciel. Baisse le monde, baisse le monde. Baisse le monde, baisse le monde, baisse le monde. Nanananana. J'ai taffé toute la semaine, Dieu merci, on est samedi. Whisky coca dans un gobelet en plastique qui finira peut-être dans l'océan Pacifique. Ou en particules toxiques dans l'organisme. Attends, mais qu'est-ce que je raconte? Meilleure soirée, meilleure vie. Que des mannequins, c'est sûrement la fashion week. Que des mannequins au bord de l'anorexie. Influence les petites pour vendre des cosmétiques. Je pensais jamais rentrer dans des soirées select. Open bar, je me sers un toast avec une grosse crevette. Pêché par un chalutier à l'est de Madagascar qui détruit la barrière de corail sur son passage, qui fait que les pêcheurs ont plus de travail. Ils ramènent rien aux villageois qui ont plus rien à graille, vu que leurs crevettes sont devant moi. Pourquoi je pense à ça, c'est pas le moment. Monte le son pendant que je fais péter le champ. C'est ma chanson préférée, ça parle de tuer des gens. D'un type qui trafique la mort pour s'acheter des jantes. Pour un SUV qui consomme énormément. Pendant que la pollution fait 4 millions de morts par an. Mais pourquoi je pense à ça, c'est pas le moment. Nouveau survêt, je suis sur mon 31. C'est pas le 31. Juste un samedi soir, t'inquiète pas, c'est rien. Mentalité zéro lendemain. Tout ira bien tant que mon verre est plein. Dites aux voisins qu'on va jamais baisser le son. Marcherons en l'air vers le ciel. Baisse le monde, baisse le monde. Baisse le monde, baisse le monde, baisse le monde. Nanananana. Nouveau week-end, nouveau flow, nouveau survêt. J'ai même pas enlevé l'étiquette.
Wow, 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 c'est quoi ça? C'est quoi cette merveille, frère? C'est quoi survêt? Il sort 12 survêt.
Un indien payé 2 euros par jour plante une graine qu'il arrose de produits chimiques cancérigènes. Après 6 mois et beaucoup d'eau, genre 8000 litres, ça donne 1 kilo de coton qu'il expédie en Chine, où c'est trié, lavé, tiré pour faire du fil dans une usine chinoise qui frôle l'esclavagisme. Le fil part en Turquie, il est tissé par des femmes. Horizontal, vertical, ça s'appelle du chêne et tram. Direction la Roumanie, yeah. Où des meufs se tuent pour fabriquer nos habits, yeah. 200 km jusqu'à la sérigraphie, yeah. Pour mettre le logo d'un designer méga riche, yeah. Qu'écoute des mecs qu'on paye une grande école, qui réfléchissent à comment vendre cette merde à tes gosses. Comme ils ont pas d'idée, ils payent une star des millions pour mettre une affiche en boutique avec son petit nom. J'arrive dans la boutique en fin d'après, mais je vois ce putain de survêt, il est soldé. Je vais pouvoir flex à pas cher. Et putain, y'a un mec dans la soirée calme, même ça valait pas la peine. Nouveau survêt, je suis sur mon 31. C'est pas le 31. Juste un samedi soir, t'inquiète pas, c'est rien. Mentalité zéro lendemain. Tout ira bien tant que mon verre est plein. Dites aux voisins qu'on va jamais baisser le son. Marcherons en l'air vers le ciel. Baisse le monde, baisse le monde. Baisse le monde, baisse le monde, baisse le monde. Nanananana.
Donc vous venez d'entendre la chanson « Baise le monde » de Aurel San. Donc c'est une musique issue de son 4e album « Civilisation » qui est sorti l'année dernière. Donc dans cette chanson relate de la dissonance cognitive, donc le fait qu'on ferme les yeux au monde pour pouvoir continuer à vivre avec nos habitudes tout en ayant conscience des problèmes environnementaux et sociaux auxquels on fait face et des problèmes engendrés par notre civilisation. Donc dans cette chanson, on retrouve Aurel San qui est dans une soirée et il est censé s'amuser, mais pourtant, avec tout ce qui l'entoure, comme le verre de whisky coca par exemple, dont il a parlé, tout ça lui rappelle les dégâts que fait notre civilisation sur la planète. Et le refrain, c'est un moment où justement il essaye d'arrêter de réfléchir pour pouvoir profiter de sa soirée, il ferme les yeux au monde, il se voile la face, et il se concentre juste sur boire son verre, danser, et d'être dans sa plus belle tenue pour pouvoir profiter de la soirée. Donc Aurel San, dans cette chanson et même dans tout l'album Civilisation, traite de la surconsommation et de la pollution. Il essaye en fait de nous ouvrir les yeux et de nous faire prendre conscience de l'ampleur des dégâts causés par le capitalisme et des dégâts plus généraux que cause l'humain en fait sur notre planète.
Et donc en fait, pour faire le lien avec le gaspillage alimentaire et les déchets, encore une fois, il faut questionner nos habitudes et essayer d'ouvrir les yeux sur notre quotidien. Et parce que les déchets, c'est pareil, à force, on n'y fait plus attention et la nourriture qu'on jette régulièrement, on n'y fait plus attention. Ça devient aussi un mécanisme. C'est pour ça qu'on souhaitait présenter cette dissonance cognitive qu'on retrouve régulièrement et dans laquelle ça nous mène à fermer les yeux sur nos habitudes. Donc, pour en revenir sur le gaspillage alimentaire, en fait, c'est un tiers de la nourriture qui est produite dans le monde qui est jetée chaque année. Un tiers, c'est énorme. C'est de la nourriture qui est gaspillée à la production, qui est abîmée à la transformation, qui est jetée au moment du conditionnement ou de la consommation. D'où l'importance du projet gaspillage alimentaire que j'ai présenté précédemment et qui a été mené avec la communauté de communes. Mais ce projet, il arrive à sa fin très prochainement, en fait, à cet été. Comment est-ce qu'il fonctionnait ? C'est qu'on a eu les subventions de l'ADEME et de la région et on fonctionne sur des projets à durée déterminée. Et à cet été, on va présenter tous les résultats du gaspillage alimentaire qu'on aura obtenu. Donc là, j'en ai présenté quelques-uns, par exemple avec la cuisine centrale du Tivoli. Mais on compilera toutes les données qu'on a eues et tous les efforts qui ont été menés pour avoir les résultats plus complets de ce travail de réduction du gaspillage alimentaire. Et donc on espère que tout ce qu'on aura mené, ça aura initié les personnes avec qui on a travaillé à continuer ce travail, parce que nous, on ne va plus pouvoir continuer à être présents au quotidien sur ce projet qui est en fait énorme et qui nécessite vraiment une présence régulière. Et que ça initiera aussi d'autres collectivités, d'autres structures. Et si des structures sont intéressées par le travail qu'on a mené, on propose notre expertise pour les aider à réduire le gaspillage alimentaire. Donc on se retrouvera en septembre, on vous parlera de tous les résultats qu'on aura obtenus, et évidemment tous les bons résultats qu'on aura obtenus sur la réduction du gaspillage alimentaire. Mais avant de se retrouver en septembre, j'avais envie de parler des prochains rendez-vous de l'association. L'association FNE04 qui organise par exemple la formation des pros du Verdon. En fait, c'est des journées d'information et de sensibilisation des professionnels des activités aquatiques sur le Moyen Verdon. L'objectif, c'est que nous allons former des guides pour la saison estivale parce que les journées d'information et de sensibilisation des professionnels, ça va permettre de les rendre conscients de l'impact de l'activité sur le milieu aquatique. Parce que chaque année, il y a énormément de visiteurs qui pratiquent des activités aquatiques dans le Verdon et les professionnels les encadrent et il faut qu'ils aient conscience de la fragilité de ces milieux. C'est pourquoi on propose avec le parc du Verdon des journées de formation et sensibilisation. Cette année, elles auront lieu le 5 et le 7 juillet 2022. Donc il y aura une partie théorique le 7 juillet. Ça va être au collège de Castellane où seront abordées l'importance de la protection du Verdon, des écosystèmes, d'expliquer le cheminement à suivre dans la rivière pour impacter au minimum le milieu et aussi l'histoire du milieu, l'histoire de la géologie des gorges par exemple. Et la deuxième journée, ça va être une partie pratique cette fois sur le couloir Sanson et le pont du Sucé, ça va être le 5 juillet. Et l'objectif de cette partie pratique, c'est vraiment de visualiser sur le terrain les bonnes pratiques pour impacter au minimum l'écosystème de la rivière et pour avoir des moyens concrets de présenter les écosystèmes aux touristes. Et les professionnels, en fait, ils sont des relais importants de ces messages de sensibilisation auprès du grand public et de leur clientèle. C'est pour ça vraiment qu'on organise avec le parc cette formation. Parce que chaque année, donc cette fois-ci, il y aura entre 20 et 30 professionnels qui vont y participer. Et chaque année, c'est quand même 10 000 touristes français et étrangers qui se rendent dans les gorges. Donc ça fait autant de personnes à sensibiliser via le relais des professionnels.
Donc ces formations sont, enfin les inscriptions sont déjà faites, c'est gratuit aussi pour
oui,
ces personnes.
Voilà. Et puis après, elles vont recevoir une certification et tous les touristes qui vont se rendre dans le Verdon pourront observer si le guide a les connaissances à participer à la formation. Donc voilà pour les formations des guides de randonnée aquatique dans le Verdon. Et sinon, autre prochain rendez-vous de l'association, ça va être le 6 juillet. On va organiser un apéro hérisson. On appelle ça hérisson parce que le logo de notre association, c'est un petit hérisson. Et qu'au cours de cet apéro, qui aura lieu de 17h à 18h30 à la butinerie, on présentera les actions de l'association et on pourra rencontrer, pourquoi pas, des futurs bénévoles. Donc c'est un moment où, si vous souhaitez vous engager dans l'association, vous pouvez venir nous rencontrer. Et on vous présentera les différentes manières d'être bénévole, qu'est-ce que vous pourriez apporter à l'association, comment est-ce que vous pouvez y contribuer. Et surtout, n'ayez pas peur de venir, parce qu'il n'y a pas besoin d'être formé, d'avoir des connaissances particulières, juste d'avoir un petit peu de temps à consacrer et l'envie d'y participer. Alors ça se trouve à la butinerie. La butinerie, c'est un lieu de préservation de la biodiversité qu'on aménage à Villeneuve. Donc c'est au pont du Pâtre. Ce lieu de préservation de la biodiversité, c'est un endroit où on présente comment favoriser la biodiversité sur un terrain. Par exemple, on y met les nichoirs, on y met des abris à mésanges, on y met des parterres de fleurs mellifères, notre potager aussi, on a choisi d'y mettre des plantes mellifères. Et donc, en se retrouvant sur ce terrain, on pourra aussi vous faire visiter le terrain, qui pourra peut-être vous donner des idées sur comment favoriser la biodiversité à la maison, dans votre jardin. Comment, par exemple, économiser l'eau, comment est-ce qu'on utilise le broyat sur nos parterres de fleurs. Et donc, ça va être un moment propice à l'échange et à la découverte. Donc, le prochain rendez-vous, c'est le 6 juillet, la butinerie au pont du Pâtre à Villeneuve, de 17h à 18h30. Et si le 6 juillet, vous n'êtes pas dispo, la prochaine date, ce sera le 24 août, aux mêmes horaires, 17h à 18h30. Et donc, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur France Nature Environnement, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet www.fne04.fr. On est aussi sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à nous y retrouver.
Amélie Bruchère, vous êtes parfaite.
Merci.
et Yann Lou aussi, bien sûr. Merci pour cette belle émission encore. Donc, un moment pour la Terre sur Fréquence Mistral, avec toutes ces infos que vous retrouvez donc sur le site de France Nature Environnement. Et bien sûr, cette émission sera en ligne sur notre site fréquencemistral.com, onglet de Digne-les-Bains dans nos émissions. Merci et puis à un bon été à vous et à bientôt.
Merci beaucoup, à bientôt.
Merci, au revoir.